Salut à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 22 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel Œil. J'avais envie de partager quelques prises de recul à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain. Un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. Alors je pars à la rencontre de personnalités et de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. Ces personnes qui, de près ou de loin, ont rêvé, ont osé, ont expérimenté et qui ont de jolis messages à nous transmettre pour nous aider à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Parce que tous, on a besoin de conseils, d'inspiration et de vagues d'espoir auxquelles se raccrocher. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser.
Je pense que quand on pense à son avenir, la première question à se poser, c'est pas où est-ce que je veux aller, c'est où je suis et comment est-ce que je m'y suis amené. Notre vie, au bout du compte, va être ce que nous allons faire avec les aléas que nous avons rencontrés. Et n'oubliez pas, votre vie va être une succession ininterrompue de bifurcations inattendues. Des rencontres inattendues, la découverte de territoires inattendus, des demandes inattendues, hélas aussi parfois des accidents inattendus, des prises de conscience inattendues. Le monde n'est fait que d'inattendus et la meilleure façon d'optimiser son rapport au monde, c'est véritablement d'être d'humeur à rencontrer l'inattendu dans tous les domaines. Quel que soit l'avenir que vous allez avoir, je vous fais une promesse mais solennelle, il va être surprenant et en particulier pour vous.
Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard ? À cette question qui nous fait tous un peu peur, Philippe Gabillier nous invite à se détacher de cette pression énorme que la société nous impose pour adopter une position de disponibilité par rapport au monde. En bref, savoir ce que l'on ne veut pas et laisser la vie dérouler son tapis en restant ouvert aux rencontres, aux demandes et au hasard. Cette position de disponibilité, c'est avant tout comprendre que si l'on est là où on est aujourd'hui, c'est parce que l'on a pris un certain nombre de décisions qui nous ont ouvert des possibilités sur la route. Des virages, des opportunités cachées qui se dessinent, et que l'on peut rarement prédire lorsque l'on nous demande « qu'est-ce que tu veux faire ?» Philippe Gabillier est depuis tout petit dans l'incapacité totale de manipuler les chiffres. Il grandit seul, dans son univers, avec pour seule passion les livres. Au milieu de cette solitude, il sait qu'il veut une chose, donner envie aux autres d'être plus heureux et les convaincre du bonheur qu'il y a à prendre sa vie en main. Alors après avoir suivi un parcours très classique, il a laissé passer quelques années avant de réaliser qu'il suivait un chemin qui ne lui ressemblait pas. De consultant à cadre d'entreprise, il a multiplié ses vies jusqu'à devenir aujourd'hui spécialiste de l'optimisme et de la chance. Alors comment trouver ce pourquoi en effet ? Philippe nous confie dans cet épisode de précieuses clés pour prendre sa vie en main. Et il avait tant de conseils à nous partager que je n'ai pas voulu couper l'enregistrement. Voici donc dans vos oreilles la toute première partie de notre conversation. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci de m'accueillir à l'ESCP.
C'est un plaisir.
Alors tu es un spécialiste de l'optimisme et de la chance, rien que ça.
Voilà, ben, c'est une... disons que moi j'enseigne la psychologie sociale, mais au fil des années... Je me suis spécialisé sur ce qu'on appelle les stratégies mentales de la réussite et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser et à l'optimisme et à la chance, entre autres. Voilà.
Tu as rejoint la Ligue des optimistes de France.
Je suis vraiment l'un des cofondateurs. Hein. On est vraiment on a porté ça sur les fonds baptismaux en fin 2010 et j'y suis toujours. Je suis toujours le porte-parole de cette association. Voilà.
Merveilleux. Et tu enseignes aussi à l'ESCP, tu es professeur de psychologie et conférencier, enfin je pourrais lister plusieurs de tes casquettes.
Il y en a trop, tout
ça. Il y en a beaucoup.
Il y en a trop.
Alors on va forcément parler d'optimisme dans cette interview, mais j'aimerais avant tout essayer d'aller décrypter les rouages de qui tu es, de ta personnalité, de ton enfance. Donc on va commencer par parler de toi petit, Philippe. Quel petit garçon tu étais quand tu avais 7 ans?
Ah, quoi qu'à 7 ans, il s'était déjà passé déjà un certain nombre de choses, bien évidemment. Donc moi, je suis bordelais, hein, je suis né à Bordeaux. Mais d'après ce qu'on m'a dit, je ne suis pas resté à Bordeaux très longtemps parce que mes parents commençaient leur vie professionnelle et donc on m'a confié presque immédiatement à mes grands-parents qui habitaient Bayonne. Donc je pense que j'ai passé mes 2-3 premières années à Bayonne et je suis revenu ensuite bien sûr à Bordeaux. Mais bon, donc moi je suis d'un milieu, je dirais, voilà, vraiment de classe moyenne. Ma mère était dans l'éducation nationale, mon père était commercial dans le monde de la distribution cinématographique. Mes racines familiales sont protestantes depuis des siècles. Hein. Donc voilà, donc c'est un milieu assez, tout ça, assez bourgeois, assez tranquille. Et moi, à 7 ans, je suis un petit garçon, je dirais que je suis un petit garçon très sage dans le fond. Très sage parce que je suis dans mon monde. Je suis pas, le sport, ça m'intéresse pas beaucoup. L'activité physique, ça m'intéresse pas énormément. Ma seule passion, c'est les livres. Mais vraiment, c'est les livres. Je fouine toujours dans la bibliothèque de mon père. Je suis intéressé par des choses qui n'intéressent pas les gens de mon âge. Et alors à 7 ans, c'est assez particulier parce que à 7 ans, je suis déjà, sauf erreur de ma part, en cours élémentaire, deuxième année ou en CM1, parce que j'ai sauté une classe et j'ai sauté le cours préparatoire parce que je savais déjà lire. Et ça a été l'un des drames de ma vie parce que en fait, je savais lire mais je savais pas compter. Et j'ai jamais su. C'est un vrai problème parce que il est apparu que j'étais dyscalculique, mais dyscalculique bien comme il faut, quoi. Donc je suis là quand même la preuve vivante qu'on peut réussir, très bien réussir, en étant, ce qui est vraiment mon cas encore aujourd'hui, tu vois, j'ai 62, bientôt 63 ans, en ayant dans l'incapacité totale de manipuler des chiffres. C'est-à-dire que moi, si j'ai pas de calculette, je suis totalement handicapé. J'arrive pas à élaborer à partir de chiffres. Donc, dès qu'il y a des chiffres, je comprends plus, je m'en mêle les pinceaux. Bon. Et donc voilà. Donc à 7 ans, je suis un petit garçon qui est dans les bouquins, surtout l'histoire, surtout, enfin tout. Je m'intéresse à tout. Et puis surtout, je suis le plus petit. J'ai toujours été le plus jeune. On se rend pas compte, mais quand tu as 7 ans, puis les autres autour de toi, ils en ont 8 ou 9. Mais c'est immense, quoi. C'est énorme. Donc, je suis plutôt un enfant sage, quoi. Je suis plutôt un enfant sage. Ce problème par rapport au calcul fait que je suis pas un élève génial, quoi. Je suis bien sur tout ce qui est littéraire, mais le reste, c'est pas ça, quoi. Ça va pas du tout. Mais bon, comme ma mère était dans l'orientation scolaire et professionnelle, elle m'a toujours déstressé par rapport à ça. Elle me dit, écoute, de toute façon, t'en fais pas. Tu t'en sortiras quand même.
Ok, on va grandir un petit peu avec toi. Tu as 20 ans. À cet âge-là, comment tu perçois ton avenir ?
Ben, ce qu'il y a, c'est qu'à 20 ans, moi, comme j'avais eu le bac super jeune, j'ai fait mes études assez tôt. Moi, à 20 ans, c'est l'année où je sors de Sciences Po. Et fin 78, je rencontre celle qui deviendra mon épouse et qui l'est toujours d'ailleurs, donc que je connais depuis donc 78. Donc tu fais le calcul, voilà. Et donc à cette période-là, moi, je suis dans l'idée saugrenu de devenir chercheur en sciences politiques, d'avoir une grande carrière universitaire, mais à l'université, ou un truc académique un peu, bon. Je suis persuadé que c'est ce que je vais devoir, que je sais ce que je vais faire. Puis il faudra attendre quelques années pour que je me rende compte que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Et puis après, j'ai fait d'autres choix, bien évidemment. J'ai fait d'autres choix, entre autres à partir de, mais le mon gros choix, mais on en reparlera, c'était à partir de 83, où là, j'ai littéralement, dans ma tête, quoi. Je me suis dit, bon, maintenant, terminé. Tu vas bifurquer. Les projets d'avant, t'oublies et on part sur autre chose. Voilà.
Ok, merveilleux. Alors je dis, tu cites, je crois que j'ai toujours voulu donner envie aux autres d'être plus heureux, de les convaincre du bonheur qu'il y a à prendre sa vie en main et à aider les autres à faire de même. Alors comment on prend sa vie en main ?
Ben, on prend sa vie en main déjà il y a plusieurs choses probablement. D'abord, il y a probablement une petite erreur de départ à ne pas faire. C'est de se focaliser trop vite. Ça va être bizarre ce que je te dis, mais il faut peut-être pas se focaliser trop vite sur le futur. C'est-à-dire, on peut dire, oui, alors voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire ? C'est la première question qu'on dit à quelqu'un. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? C'est bien, mais si ce n'est que, voilà, c'est hyper confortable dans le fond, hein, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Parce que soit, en fait, on est sec, on dit, bah écoute, je sais pas trop, n'importe quoi dès l'instant où c'est intéressant, ou on a déjà un désir, etc., mais après, le va se poser le problème de la capacité à faire ce désir. Moi, je te donne un exemple. Et moi, j'ai voulu faire beaucoup de métiers, tu vois, dans mon enfance. Et j'ai gardé des souvenirs assez précis. Je voulais être chirurgien quand j'avais, tu vois, là, 7, 8 ans, 9 ans, je voulais être chirurgien. C'était mon truc, quoi. Être médecin, ça aurait été mon rêve. Pour être médecin, quand on est en France, il faut avoir un niveau en mathématiques, si tu veux, qui faisait que moi, ça m'était interdit. Après, la chose qui m'aurait, mais alors, totalement éclaté, vraiment. Parce que j'ai toujours aimé ça et j'ai toujours adoré ça, c'était le théâtre. Et moi, je voulais faire du théâtre parce que je pense que j'étais bon là-dedans. Mais pareil, quand t'es dans un milieu bourgeois, protestant, dans les années 70, quand j'ai dit à mon père, après le bac, je voudrais monter à Paris pour aller faire du théâtre, il m'aimait beaucoup, je l'aimais beaucoup, mais il m'a dit, écoute, t'es gentil, mais non. Quand je dis souvent, je raconte souvent cette anecdote, parce que, mais authentique, où il me dit, tu vas commencer par faire Sciences Po et l'ENA, et puis après, on discutera si tu fais du théâtre ou pas. Donc, l'affaire était réglée. Après, je voulais être prof à l'étranger. Et je voulais être prof en Asie. Mais d'ailleurs, c'était pour être prof ou pour l'Asie ? Je sais toujours pas. Mais voilà, donc j'avais des trucs comme ça, mais après, il y avait la capacité à faire. Donc, fondamentalement, je pense que quand on veut, on pense à son avenir, la première question à se poser, quel que soit son âge, c'est pas « où est-ce que je veux aller ?» La première question à se poser, c'est « où je suis ?» Et comment est-ce que je m'y suis amené ? C'est-à-dire que c'est vraiment important de comprendre que où qu'on soit, où que tu sois toi, où que je sois moi, les circonstances probablement ont joué leur rôle, mais si tu es toi là où tu es aujourd'hui, et si moi je suis là où je suis aujourd'hui, c'est que j'ai pris, ou tu as pris, un certain nombre de décisions qui t'ont amené là, indépendamment du contexte. C'est-à-dire que tant que, quel que soit mon âge, et même si j'ai que 20 ans, je dis, de toute façon, mes parents m'ont jamais permis d'eux, je suis dans un milieu social qui, etc. Il n'empêche qu'il y a tout un tas de gens. Il y en a plein. Milieu social défavorable, défavorisé. Ils n'ont pas toutes les cartes, etc. Et pourtant, ils y vont, ils tentent le coup, ils ont fait ce qui leur plaisait. Donc, à un moment ou à un autre, tant qu'un individu, tant qu'un homme ou une femme n'est pas capable d'identifier ce qui lui est imputable à lui ou à elle dans ce qu'il est aujourd'hui ou de ce qu'il n'est pas, ça va être compliqué de passer à l'étape suivante. C'est pour ça que le premier boulot, il est là quand même. Alors, est-ce qu'il faut le faire à 20 ans ? J'en suis pas sûr, moi. T'as des gens qui vont faire ça à 30, ou à 40, ou à 50. T'en as même, ils vont le faire à 60. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à se poser cette question-là au moment où ils sont à la retraite. C'était grave, en fait, au 19e siècle, parce que quand tu partais à la retraite à 65 ans, statistiquement, il te restait un an ou deux à vivre. Mais maintenant, tu pars à la retraite, même, il te reste 20 ans ou 30 ans. T'as parfois ce qui était l'équivalent d'une vie complète à partir du jour où tu arrêtes de travailler, ce qui est tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité. Bon, donc vraiment, ce pourquoi on est fait, il y a comment je me suis amené là. Et après, il y a que me dit mon désir. Dans le fond, est-ce qu'il y a des choses dont j'ai vraiment envie ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir ? C'est-à-dire quel est le type de vie, mais au sens très quotidien. Tu vois, je voudrais que ma vie quotidienne, elle ressemble à quoi ? Parce que même si on est un aventurier, il faut savoir que le plus grand des aventuriers, il a une vie quotidienne. Hein, voilà, lui, il est obligé d'aller acheter à bouffer, il est obligé. Donc, c'est de quoi j'ai envie de vivre où avec des gens qui sont pas de ma culture, la même culture. Je voudrais passer du temps à penser, à réfléchir, à discuter, à faire des choses avec mon corps, avec des choses avec mon esprit, avec ma créativité. Voilà, on va se poser la question. Et puis, l'idée, c'est que quand on veut se projeter dans le futur, en gros, tu as deux façons de faire. Soit tu as un but précis. Puis voilà, moi j'ai vraiment envie, j'ai une vocation. Je veux faire ça. Et donc je vais tout mettre en œuvre pour aller vers cet objectif très précisément. Première possibilité. Deuxième possibilité, je sais ce que je veux pas. Et à partir de là, je suis ouvert. Je suis ouvert à des rencontres. Je suis ouvert à des univers du savoir. Je suis ouvert à des demandes que peut-être on me fera, un peu par hasard, un peu par concours de circonstances. Voilà. Donc, il y a deux façons, en fait, d'aborder son avenir, soit en mode projet, soit en mode disponibilité. Honnêtement, les deux sont bons. Hein, les deux sont bons. Bon. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens, en fait, qui s'entêtent à vouloir à se trouver des projets, parce qu'on n'arrête pas de leur dire « Trouve-toi un projet, qu'est-ce que tu veux faire ?» Alors qu'en fait, il serait beaucoup mieux s'ils se mettaient simplement en disponibilité par rapport au monde. Et il y a des gens qui passent trop de temps à être en disponibilité par rapport au monde et qui ne laissent pas, en fait, mûrir un projet qui les amènera beaucoup plus loin. Donc, c'est juste le point sur lequel il faut peut-être pas trop se gourer. Il y a des moments pour la maturation, il y a des moments pour le projet.
Pourquoi on attend? Pourquoi on attend d'avoir 30 ans, 40 ans ou 50 ans pour commencer à se poser ces questions un petit peu existentielles du sens de ce qu'on voudrait faire?
On attend parce qu'on a tous un point commun, sans exception. Hein. Nous sommes les uns et les autres insérés dans un réseau de quotidienneté. Voilà. Donc la quotidienneté, c'est fait de rituels, c'est fait d'habitudes. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si souvent le moment clé, le moment de bascule où on va s'interroger là-dessus, c'est parce qu'on a eu une crise. On vient de se faire larguer. On vient de se faire jeter. On avait trouvé un job pas possible. On était celui ou celle qu'il fallait pour le job. Et plam, on se fait sortir. On perd quelqu'un. Voilà, on perd ses parents ou on perd son grand-père. On perd quelqu'un pour la première fois. T'as des gens à 25 ans, ils n'ont jamais vu mourir personne autour d'eux. Puis tout d'un coup, le grand-père meurt ou la grand-mère meurt. Et c'est une catastrophe. Quand t'as commencé à perdre du monde à 10 ans, on s'y fait jamais, hein. Mais on cicatrise plus vite. Voilà. Et surtout qu'on finit par comprendre que c'est dans la nature des choses. Là, il y a des tas de choses qui se passent comme ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on attend? Il est clair que un grand nombre d'entre nous, on attend parce que nous sommes dans un des éléments de la modernité, c'est la rationalité. Et la rationalité, c'est quelque chose qui nous pousse à attendre d'être prêt. Or, si j'attends d'être prêt, je ferai jamais rien. Parce qu'on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt à entreprendre. On n'est jamais prêt à fonder une famille. On n'est jamais prêt à redémarrer une grande histoire d'amour. On n'est jamais prêt à lancer une collection de podcasts. On n'est jamais prêt. Moi, j'ai passé ma vie à accepter des jobs pour lesquels j'étais pas prêt. Donc même des fois des jobs, maintenant je peux le dire, où j'y connaissais pas, je ne connaissais rien. Mais à partir du moment où... Voilà. Et on voit bien d'ailleurs, ça c'est un petit aparté philosophique, mais en épistémologie, une décision en fait. Tu as deux façons de prendre une décision dans ta vie. Hein. Première façon de prendre une décision... je vais peser ma décision quand même. Hein. Donc, le pour et le contre, prendre conseil, laisser maturer, etc. Donc, c'est-à-dire que je pars de l'idée que la décision de vie que je vais prendre, sa valeur sera augmentée si je passe du temps avant. Bon, donc la qualité de ma décision se construit avant que je la prenne. Et puis, tu vas avoir ce que nous apprennent tous les gens qui fonctionnent dans l'urgence ou dans la réactivité ou dans l'agilité. Tu dis, t'as des situations dans la vie où, un, j'ai pas le temps, deux, j'ai pas l'info, et trois, l'environnement est turbulent. Donc, dans un cas comme ça, la seule bonne décision, c'est celle que je prends, n'importe laquelle, et qu'à partir de cet instant, je vais tout faire pour essayer de rendre bonne. C'est-à-dire que dans la vraie vie, les meilleures décisions sont celles qu'on prend en n'étant pas prêt, mais à partir du moment où la décision est prise, on va mettre toute son intelligence, toute sa passion, pour faire en sorte que cette décision se révèle être celle qu'il fallait prendre. La qualité de la décision va se construire après qu'on l'ait prise.
Pour les jeunes aujourd'hui qui justement sont face à des choix d'orientation, qui savent pas spécialement ce qu'ils veulent faire et qui commencent pour autant à se poser ces questions du sens, quels conseils tu pourrais leur donner?
Déjà, il faut bien comprendre que toute vie, de toute façon, qu'ils le veuillent ou non, sera faite de bifurcations inattendues. Alors ça, je dirais, c'est quelque chose que je le prévois et je le promets à tout le monde, c'est mon seul côté devin. Quel que soit l'avenir que vous allez avoir, je vous fais une promesse, mais solennelle, il va être surprenant, et en particulier pour vous. Voilà. Alors ça, tu vois, ça je peux te le dire à tous les jeunes. J'ai deux enfants, j'ai deux filles de 21 et 23 ans maintenant, donc j'ai un laboratoire à la maison d'observation tout à fait intéressant là-dessus. Actuellement, quand on est jeune, on est entouré de gens, et je suis très précis là-dessus, qui, parce qu'ils nous aiment, veulent limiter les risques qu'on prend. Il faut bien comprendre que si les parents nous disent parfois « mais non, t'es trop jeune, t'es trop vieux, t'as pas assez de diplômes, t'as trop de diplômes, mais tu te rends pas compte avec les diplômes que t'as, faire ça, tu es fou, mais tu quand même t'es qu'une fille quand même, mais quand même t'es un garçon, tu vas pas... Bon. » Donc, il faut savoir que chaque fois qu'on évoque quelque chose, je dirais, qui sort du cadre, devant des gens qui nous aiment, et surtout s'ils nous aiment, ça les fait sortir, eux, de leur zone de confort. Donc, il faut leur pardonner, quoi. Ils savent pas ce qu'ils font. Bon. Ils ont oublié. Ils ont oublié, eux, comment ils fonctionnaient. C'est pas grave. Bon. C'est vrai que quand on écoute nos parents, on a l'impression que, par exemple, à l'école, ils avaient tous que des bonnes notes. Bon, ben, voilà. Mais il faut laisser faire. En revanche, on est dans une société qui valorise le plan. Plan de carrière. Plan pour faire tes études. plan d'action. Et en entreprise, tu vois, plan de marketing, plan stratégique. On carbure au plan, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on peut se rendre maître du futur, et du sien en particulier, en fonctionnant comme ça par étapes, en projetant mentalement dans le temps des étapes. La seule chose, c'est que le plan, c'est une fiction. Mais quand je dis que c'est une fiction, c'est une vraie fiction au sens physique du terme, pour la bonne et simple raison, c'est que demain matin, ça n'existe pas. C'est-à-dire que personne n'y a jamais été. Mais là, tu vois, là, on est ce matin là dans les locaux de l'ESCP, mais personne n'a jamais été ce soir. Donc, le futur est une fiction. Et ça explique pourquoi, d'ailleurs, un plan ne se déroule jamais comme il a été élaboré, puisque ce n'est qu'un travail qu'on nous veuille de l'imaginaire. Alors, nourri par la mémoire, nourri par le discernement, tout ce qu'on veut, voire même nourri par la volonté, mais ça reste un travail de l'imaginaire. Ce qui fait la vraie vie, mais la vraie vie alors, hein, c'est l'aléa. Parfois, cet aléa est positif, coup de chance, belle rencontre, inattendu, cool, quoi. Et parfois, cet aléa est négatif, pépin, tuiles diverses, accident, embrouille, bon. Donc, de toute façon, notre vie, c'est pas tout ce qui nous arrive. Notre vie, au bout du compte, va être ce que nous allons faire avec les aléas que nous avons rencontrés. Donc, ce qu'on appelle, tu vois, la chance, entre autres, c'est ça, hein. C'est une espèce d'intelligence de l'incertitude. C'est-à-dire que c'est la capacité à avoir un retour sur incertitude qui soit important. Donc, les jeunes aujourd'hui, je le dis à mes enfants, je dis, n'oubliez pas, votre vie va être une succession ininterrompue de bifurcations inattendues. Des rencontres inattendues, la découverte de territoires inattendus, des demandes inattendues, hélas aussi parfois des accidents inattendus, des prises de conscience inattendues, que vous allez de révélations sur un sujet, sur un domaine, sur un truc, pas moins intellectuel, spirituel, amoureux, peu importe. Donc, le monde n'est fait que d'inattendu, et la meilleure façon d'optimiser son rapport au monde, c'est véritablement d'être, je dirais, en anglais, je te dirais, in the mood for unexpected. Être d'humeur à rencontrer l'inattendu dans tous les domaines. C'est pas ce qui empêche, par ailleurs, à côté de ça, d'avoir des plans d'action, tu vois. Mais aujourd'hui, prends un jeune qui crée sa boîte, qui crée sa start-up, etc., sûr qu'il a un plan dans sa tête, ou elle a un plan dans sa tête, c'est évident. Mais on sait bien que j'ai mon plan, j'ai mon désir, j'ai ce que je veux bâtir, puis à partir de ce moment-là, l'inattendu va arriver. Parce que il manque de pognon, parce que les premiers clients sont pas contents, parce que le logiciel était buggé, parce que, etc. Donc, j'ai un cadre qui va être un plan, toujours, dans ma vie. Hein. Et puis, l'inattendu va arriver, il va falloir dealer avec. Voilà, ça c'est un point, ça se passera jamais comme vous avez prévu, mais l'expérience de la vie, j'insiste là-dessus, quand les gens qui te disent « j'ai de l'expérience », il faut toujours leur demander, tu vois, d'élaborer un peu, parce qu'encore une fois, l'expérience, c'est pas ce qui m'est arrivé. L'expérience, c'est ce que j'ai fait avec ce qui m'est arrivé, c'est ce que j'ai appris de ce qui m'est arrivé.
Tu as écrit plusieurs livres, dont un qui a pour titre « Éloge de l'audace ». J'imagine que l'audace, elle joue un grand rôle dans cet inattendu. Moi, ça me parle beaucoup, l'audace, parce que c'est en partie grâce à ça que je te tends mon micro aujourd'hui. Et j'ai le sentiment personnel que plus on est audacieux, plus on attire nos chances. Ces chances donc qui vont arriver dans l'inconnu. Pour toi, est-ce que l'audace a un lien direct avec la chance ou pas?
Je serais tenté de dire que je n'ai jamais en fait vraiment travaillé sur le lien entre les deux, parce qu'on a d'un côté quelque chose qui va être de l'ordre du comportement, à un moment donné, et puis de l'autre côté quelque chose qui renvoie davantage à un rapport un peu plus profond avec le monde. Mais il peut y avoir effectivement un lien, puisque la décision audacieuse, c'est une décision qui va à un moment donné sortir du cadre, en tout cas vu par les autres. Hein. Je crois que c'est Émile Littré, le grand philologue, qui dans son dictionnaire de la langue française, alors c'est en état 1850, tu me diras, mais je crois qu'il décrit, je me souviens, il disait c'est un mouvement de l'âme, l'audace, qui nous pousse à entreprendre des choses hors du commun, en dépit du risque et du danger. Donc voilà, on sort du cadre, on sort de la voie commune, et partant de ce principe-là, on crée les conditions pour que de l'inattendu advienne. Et donc, éventuellement, on en fasse quelque chose. Mais d'un autre côté, l'audace doit vraiment être comprise comme quelque chose de très quotidien. Hein. l'audace, elle n'est pas toujours hollywoodienne, tu vois. C'est pas l'audace du héros, c'est pas toujours l'audace du grand découvreur. Non, on a parfois des audaces quotidiennes. Moi, je suis pas, tu vois, je suis professeur dans une grande école, je suis père de famille, etc. Et ouais, je vais pas dans le top 10 des grands audacieux. En revanche, dans mon parcours, j'ai effectivement fait preuve d'audace, ce que j'appelle d'audace à mon niveau à moi, à plusieurs reprises, et qui ont en grande partie, structuré ce que je suis aujourd'hui.
Tu as toujours été audacieux, toi ?
Non, mais j'ai fait des choses audacieuses. On n'est pas audacieux, tu vois. On va avoir des comportements. À un moment donné, on fait des trucs. Quand j'étais beaucoup plus jeune, on est dans les années 70, etc. Alors la chance que j'ai eue, c'est que la plupart du temps, mes parents m'ont suivi. Moi, j'ai dit un jour, je me tire, je pars faire du stop, je vais traverser l'Europe en stop et tout. Ils n'ont rien dit. Je suis parti tout seul à l'époque, tout seul. Je dirais avec juste un billet d'avion aller-retour et un pass pour prendre des bus. J'ai traversé les États-Unis en loge en travers pendant 2 mois. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque, mais mes parents ne savaient pas où j'étais. Moi, quand je suis parti, j'étais pas très fier. En fait, je disais, putain, qu'est-ce que je fais ? Bon, voilà. Je suis rentré, j'ai quitté. En fait, j'avais commencé à bosser à la fac en 83. Je suis parti sur un coup de tête parce que j'en avais ras-le-bol, je voulais travailler. N'arrivant pas à trouver du boulot, j'ai dit, allez, je tente le coup, je connais rien au monde de l'entreprise, je crée ma propre structure. Mon père m'a accompagné, le peu d'argent qu'il a mis là-dedans, il l'a perdu. Mais après, ça s'est retrouvé après. Voilà, j'ai accepté de rentrer dans un cabinet conseil dont je connaissais pas le métier. Parce que le gars, il me dit, non, mais tu connais... Faut y aller, tu vas voir. Bon, j'ai voulu rentrer à l'ESCP alors que j'étais pas docteur. Alors je le suis devenu après, tu vois. Mais donc il y a des tas de choses comme ça qui étaient des petites choses, des petits trucs où autour de moi on me dit mais t'es sûr, c'est bien raisonnable à ton âge avec tes compétences ou ton absence de compétences, tu crois quand même que c'est ça. L'audace c'est toujours ça, c'est oser aller au-delà de ses propres limites, voilà, à un moment donné.
Ok, on va peut-être parler de l'optimisme, ouais. Maintenant. Tu as écrit donc 3 livres, hein, sur l'audace, hein, sur la chance, hein, sur l'optimisme.
Mmh,
et j'ai l'impression que les trois sont quand même intrinsèquement liés. Et pour toi, tout le monde a ce pouvoir d'être optimiste s'il le choisit. Alors j'imagine que ça n'est pas aussi facile de cultiver l'optimisme pour quelqu'un qui vit dans un pays en guerre que pour quelqu'un qui a grandi en France, par exemple. Alors comment on peut devenir optimiste, quel que soit notre passé et nos difficultés du quotidien ?
Oui, alors déjà, je vais répondre à ta question, mais il faut faire une petite distinction. L'optimisme peut avoir un... Ça dépend de quel optimisme on parle, en fait. Parce que là, pour le coup, très 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 rapidement, scientifiquement parlant, aujourd'hui, en sciences cognitives, bon, l'optimisme, dans le fond, quand on l'analyse, on peut l'analyser à 3 niveaux. Il y a tout d'abord un optimisme qui est un optimisme que je qualifierais de congénital. C'est-à-dire que toi et moi, pour des raisons qui sont liées au génome et au fait que nous assurons par notre présence la continuité de l'espèce humaine, nous naissons optimistes. En ce sens où un homo sapiens, un petit être humain qui vient au monde, dans le cerveau, qui pourtant est très immature au départ, il y a 2 progiciels, si tu veux, qui entre autres, hein, mais il y a entre autres 2 progiciels qui sont là dès le départ pour tout le monde, hein, qu'on va appeler, c'est Seligman, je dirais, qui est un des inventeurs de la psychologie positive, qui appelle ça « the hope circuit », le circuit de l'espoir. On a en nous, au départ, un circuit de l'espoir et un circuit de la peur. Les 2 sont vides. Mais ce sont ces 2 circuits, la façon dont ils vont fonctionner, qui fait qu'on va survivre. Tu vois, parce que si on n'est pas capable d'espérer le meilleur, donc on ne pourra pas bâtir de projet, on ne pourra pas se projeter. Mais si on n'est pas capable d'avoir peur, d'identifier des menaces pour pouvoir s'enfuir, donc, il faut être clair, toi et moi, on a un point commun, nos ancêtres étaient tous des pessimistes. Parce que sans ça, ils seraient morts. Ils nous auraient pas eu. Hein. Du temps de Cro-Magnon, l'optimiste, il va avoir un problème. Quoi. Bon. Donc, il est clair que on a ces deux progiciels, et c'est la vie qui va les paramétrer. Mais c'est-à-dire les expériences de la vie, les messages parentaux, les messages d'éducation, etc. Et ce qui fait que on a, premier niveau, les 2 progiciels, qui sont vides au départ, et qui vont créer ensuite ce qu'on appellera notre dimension pessimiste ou optimiste. Et ensuite, après, on a le trait de caractère, qui en fait est la façon dont nous avons chacun d'entre nous, individuellement, élaboré ce truc-là. D'accord ? Et on se construit une disposition qui fait qu'à l'âge adulte, on est considéré par notre environnement, ou plutôt comme quelqu'un d'optimiste, ou plutôt comme quelqu'un de pessimiste, ou souvent comme quelqu'un qui a la capacité à switcher de l'un à l'autre. Bon, mais donc il y a le truc qui est inné, si tu veux, le biais cognitif inné. Deuxième niveau d'analyse, l'aspect vraiment structure de personnalité, trait de caractère. Et enfin, on va avoir une troisième dimension qui est celle qui est la plus intéressante, qui est ce que moi j'appellerais l'optimisme méthodologique. C'est-à-dire la capacité que tout individu, mais même si c'est le pessimiste de chez pessimiste, hein, tout individu a la capacité à aborder une situation ou à aider quelqu'un à aborder une situation en mode optimiste, ben justement parce que c'est un père ou une mère qui veut remonter le moral de son gosse, un manager qui veut réveiller son collaborateur, on veut remonter le moral d'un pote qui est triste, enfin tu vois. Donc l'optimisme, c'est ces trucs. Il y a une dimension innée. La dimension innée, elle est paramétrée par les circonstances, la vie, etc. Et ça fait le trait de caractère. Et après, il y a l'aspect comportemental. Donc, tu vois, le pays en guerre, par exemple. Le pays en guerre, non, ça, c'est quelque chose qui va entretenir la résilience, des choses comme ça. Mais tu as tout, même dans les pays, des gens qui sont dans les pires conditions de vie, tu vas dans un bidonville à Calcutta, il y a des gens qui sont optimistes parce qu'ils te disent, mais en gros, quand tu discutes avec eux, quand tu vois la cité de la joie, par exemple, tu te dis, mais attends, mais par rapport à la vie terrible que tout le monde a, mais moi, globalement, j'ai pas à me plaindre, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et qu'est-ce que c'est que l'optimisme, dans le fond? L'optimisme, je dis souvent, c'est un double pari. C'est un double pari de confiance.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Oeil, retrouve-moi sur le site internet Nouvel Oeil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Oeil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Oeil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.